59. Élise. En me levant ce matin, un sentiment désagréable me traverse. Quelque chose n'est pas normal. Depuis que je laisse la porte de ma chambre ouverte la nuit pour le rassurer, Édouard a une nouvelle habitude. Lorsque je m'endors, il est nonchalamment allongé au pied du lit. Lorsque je me réveille, il est nonchalamment allongé contre moi. J'imagine ce qui se passe entre les deux. Il me scrute, attendant patiemment que je sombre dans le sommeil. Il grimpe le plus légèrement possible sur le lit, puis progresse, centimètre par centimètre, jusqu'à atteindre le spot le plus proche de moi. Sa truffe à quelques centimètres de mon nez. S'il le pouvait, il me servirait d'écharpe. Je fais mine de le réprimander, mais à chaque réveil, je suis presque heureuse de sentir son haleine sous-marine. Ce matin, je suis seule dans le lit. Je me lève, la chambre est vide. J'appelle Édouard. Il devrait arriver ventre à terre, mais rien. Je suis inquiète en me rendant dans la cuisine, et ce que je découvre ne me rassure pas. Édouard gît sur le flanc, à même le sol, les yeux ouverts, la respiration saccadée, la bave au museau. Il a vomi à plusieurs endroits. Je ne perds pas une minute, je le porte jusqu'à la voiture et roule vers la clinique vétérinaire. Couché sur le siège passager, il ne bouge pas de tout le trajet. Même la présence de congénères dans la salle d'attente n'a pas le moindre effet. La secrétaire m'indique que nous passerons en priorité dès que le docteur aura terminé sa consultation en cours. L'attente est insupportable. C'est la première fois qu'Édouard est malade. J'ai tendance à oublier son âge tant il est en forme. Je ne suis pas prête à me passer de lui. Je viens juste de le rencontrer vraiment. Couché sur mes cuisses, Édouard respire péniblement. Quelquefois, son corps entier frémit. Je ne cesse de le caresser, de lui parler doucement. Tout va bien aller, mon gros. Le vétérinaire n'est pas loquace. Il examine Édouard, palpe son ventre, fouille sa gueule, prend sa température et finit par me proposer une échographie. « Tout ce que vous voulez, docteur. »« A-t-il mangé quelque chose d'inhabituel ?» me demande-t-il. « Pas que je sache. » Il me laisse dans le cabinet et emmène Édouard dans la salle de radiologie. À peine a-t-il fermé la porte que mes larmes jaillissent. Mon téléphone sonne, je ne le sors pas de mon sac. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai besoin d'être seule. Le vétérinaire revient au bout de 20 minutes, Édouard dans ses bras. Je m'essuie les joues et le prends dans les miens. Il pose les clichés devant moi et de la pointe de son stylo me désigne plusieurs zones. « Vous voyez les intestins ?» déclare-t-il. Je hoche la tête d'un air entendu, mais ce pourrait aussi bien être la coloscopie de sa grand-mère. « Les petites taches que vous apercevez sont des éclats solides, sans doute du plastique. Vous avez une idée de ce que cela pourrait être ?»« Non, vraiment, je ne... » Oh putain, mon porte-clés. Je ne le trouvais plus depuis quelques jours. C'est possible, en effet. Plusieurs morceaux sont coincés. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont dans la partie basse de l'intestin. Nous allons le perfuser pour le réhydrater et lui administrer le traitement. Cela pourrait suffire à le guérir. Si ce n'est pas le cas, nous opérerons. Je serre Édouard un peu plus fort contre moi. Il va s'en sortir ?
Ça devrait aller. Il est entre de bonnes mains.
Sur le trajet qui mène au travail, j'essaye de chasser les dernières images. Quand le vétérinaire a enfermé Édouard dans la cage, j'ai lu la détresse dans son regard. J'ai demandé l'autorisation de venir lui rendre visite, le médecin n'y a vu aucune objection. J'ai promis à mon chien de passer ce soir. J'ai appelé Madame Madinier ce matin pour la prévenir de mon retard. Quand je pénètre dans le bureau, elle sait que l'absence d'Édouard n'est pas une bonne nouvelle. J'espérais qu'elle se garderait de toute remarque acerbe. Mais c'est plus fort qu'elle.
Je suis heureuse de vous voir, Élise, sans votre monstre.
J'essaye de me contenir, mais face à son petit air satisfait, je sens la colère pousser les mots hors de ma bouche.
Je suis heureuse de vous voir aussi, Madame Madinier, sans votre finesse.
60. Lily. J'avais dit non, mais à force de l'évoquer à chaque séance, la psychologue m'a convaincue de prendre rendez-vous avec la socio-esthéticienne. J'ai failli annuler une dizaine de fois. D'abord, parce que c'était une perte de temps. J'ai toujours pris soin de moi. Mais depuis ta naissance, mon corps est un champ de ruines. Je vais au plus rapide pour privilégier les moments avec toi. Je me douche à la hâte, plus par respect pour l'odorat de mes congénères que par réelle envie. Je m'habille avec ce qui me tombe sous la main, pourvu que ce soit confortable. Ma peau se transforme en papyrus et je pourrai poser des bigoudis sous mes aisselles. Ensuite, parce que mon corps est une plaie. J'ai les seins à vif, Mon ventre réussit l'exploit d'être hypersensible et insensible à la fois. Je n'arrive même pas à l'effleurer sous la douche. Et je ne peux m'asseoir que sur le côté, car des veines ont décidé de se dilater au mauvais endroit. Enfin, parce que, même si j'y travaille dur, je ne suis pas réconciliée avec mon corps. Je me contracte rien qu'à l'idée que quelqu'un puisse le frôler. Ton papa a essayé une nuit. Son tibia pleure encore. La socio-esthéticienne s'appelait Selena. Elle était douce comme un tapis berbère. Elle m'a posé 3 questions et m'a invitée à ôter mon haut et à m'allonger. J'ai obtempéré en me demandant ce que je foutais là. J'étais étonnée de ne pas avoir à me déshabiller entièrement, mais je me suis bien gardée de lui en parler. Elle a préparé son matériel en silence. Une musique douce était diffusée et les volets étaient presque totalement baissés, laissant à peine entrer quelques éclats de lumière. Je fixais le plafond.
Inspirez, puis expirez longuement.
Elle m'a fait recommencer 3 fois. Les 2 premières, j'ai fait de la résistance. La 3e, j'ai senti mon corps se détendre imperceptiblement. Elle a commencé par le visage. Elle a caressé ma peau avec un coton imbibé. Ce n'était pas trop désagréable. Elle m'a demandé comment tu t'appelais. J'ai soufflé ton prénom en espérant qu'elle allait se taire. Elle a chauffé de l'huile dans ses mains et m'a doucement massé le front. Elle m'a questionné sur ta santé. J'ai répondu en une syllabe et j'ai fermé les yeux. Ses doigts ont effleuré mes joues. Elle a voulu savoir si tu étais mon premier enfant. J'ai hoché la tête. Elle a laissé passer de longues minutes sans parler. Ses mains pétrissaient mes épaules, remontaient le long de mon cou, caressaient mon menton, mes joues, mon nez, mon front, massaient mon crâne, puis recommençaient. Les épaules, le cou, le menton, les joues, le nez, le front, le crâne. Ma respiration s'est apaisée. Les épaules, le cou, le menton, les joues, le nez, le front, le crâne. Mon dos s'est enfoncé dans le matelas. Les épaules, le cou, le menton, les joues, le nez, le front, le crâne. Mes jambes se sont détendues. Les épaules, le cou, le menton, les joues, le nez, le front, le crâne. Mes poings se sont desserrés. Les épaules, le cou, le menton, les joues, le nez, le front, le crâne. Mes larmes ont roulé. Les épaules, le cou, le menton, les joues, le nez, le front, le crâne. Je lui ai tout raconté. La visite chez l'obstétricien, le sang, le code rouge, le bloc, l'attente, l'angoisse, les tuyaux, le masque, l'incertitude, les progrès, l'espoir. Elle m'a écoutée attentivement, sans jamais cesser le balai de ses mains, ponctuant mon récit de questions ou de remarques. Quand elle a eu fini, elle m'a laissé reprendre mes esprits. Je me suis redressée, ma tête tournait. Je ne m'étais pas sentie aussi sereine depuis longtemps. Je croyais que vous alliez me masser le corps, j'ai dit.
Je sais que le corps des jeunes mamans est meurtri.
J'ai acquiescé. Je m'étais livrée à une inconnue au simple contact de ses doigts sur mon visage. Si elle s'était occupée du reste, gageons qu'elle serait repartie avec le code de ma carte bancaire.